Chers frères et sœurs, notre chant d'entrée n'a pas seulement proclamé une promesse solennelle de Dieu, mais a aussi rappelé dans quel contexte cette promesse est donnée. De fait, le Seigneur donne et renouvelle la promesse de sa proximité au sein des tribulations que traverse son peuple, son Église. Il promet sa proximité aux cœurs affligés par toutes sortes de tribulations. Ce constat nous encourage de recontacter brièvement nos trois lectures qui nous font, chacune à sa manière, reprendre conscience de réalités douloureuses desquelles nous aimerions peut-être tous détourner le regard. Mais en refusant de détourner notre regard, nous apprenons peut-être du même coup à discerner mieux ce qui peut se passer dans notre propre cœur et à quoi il vaut la peine d'être tout attentif. De fait, le sens de la révélation biblique n'est-il pas de nous apprendre à discerner ce que Dieu voudrait former, éventuellement reformer dans notre cœur, pour qu'en apprenant à discerner les traces de l'amour sauveur de Dieu, nous puissions aussi apprendre à vivre selon son cœur. La première lecture de cette Eucharistie a été tirée du livre de la Sagesse. Ce livre nous permet, entre autres, de toucher quelque chose de la situation parfois difficile des Juifs d'Alexandrie qui vivaient, au premier siècle avant notre ère, dans cette ville égyptienne, païenne et florissante, avec cohérence et fidélité leur foi, mais devaient faire quelquefois l'expérience douloureuse de la persécution. Celle-ci s'avérait particulièrement dure quand aux cris haineux des païens se mêlait la fureur de ceux qui avaient préféré à tout, et aussi à la foi, les bonnes places dans la ville cultivée et supportaient donc mal ceux dont la vie, ajustée à la parole divine, constituait pour eux un vif reproche. Dès lors, il n'y avait qu'à éliminer ces justes, ces chassidim, qui étaient en fait des gêneurs. Voilà la conclusion perverse du cœur qui ne veut pas se regarder à la lumière de la vérité. Car d'un tel cœur monte toujours une rage dévastatrice, projetant toujours sur les autres ce qu'il refuse de discerner en lui-même. La troisième lecture, tirée de l'évangile de saint Marc, nous a fait entendre la deuxième annonce de la passion de Jésus. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, dit Jésus. Or, même pour les disciples les plus proches de Jésus, cette orientation de leur maître est de trop. Saint Marc n'hésite pas à montrer que les disciples font, en ce stade de leur cheminement, tout pour ne pas y penser. Et ne serait-ce qu'en fixant leur intérêt principal justement sur ce à quoi Jésus a renoncé toujours radicalement. En effet, de quoi s'occupe leur cœur? Jésus leur demanda De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Voilà, le cœur des disciples entourant Jésus est préoccupé, non pas d'écouter et de retenir sa parole, mais à se battre pour les premiers rangs, les meilleures places dans ce groupuscule qui est encore loin d'être une communauté. « J'étais avant toi, c'est ma place. As-tu oublié qu'il m'a choisi le premier ? Ne suis-je pas plus intelligent que toi ? Et je vous laisse prolonger la liste. Notre cœur serait-il vraiment meilleur que le cœur de ceux qui sont encore à leurs premiers apprentissages des enseignements de Jésus ? Devrions-nous en triompher ? Or, Jésus lui-même ne triomphe pas. Au contraire, s'étant, depuis toute éternité, fait le serviteur le plus humble, le dernier de tous, afin de gagner le cœur de tous, afin de gagner au Père tous les cœurs, Jésus n'hésite pas une seconde à se donner du temps et à donner du temps supplémentaire et gratuit sans facture ajoutée, du temps combien amical, en même temps que magistral, à donner du temps à ceux dont il désire former et reformer le cœur. S'étant assis, écrit saint Marc, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Or, cet enseignement si bref est si central que les évangélistes nous le transmettent pas moins que 5 fois. Et pour cause, de fait, comme le montre notre deuxième lecture, tirée de la lettre de saint Jacques, c'est bien une parole de Jésus à se remettre toujours en mémoire, et cela dès les premières générations des chrétiens. Pour preuve, voilà ce qu'écrit saint Jacques, arrachant d'ailleurs tous les masques des visages de ceux qui font partie de l'Église qui lui est confiée. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même ? N'est-ce pas tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même, en votre cœur. Ne nous faisons pas d'illusions. S'il y a, j'ose dire, dans les esquisses de communauté que nous essayons de construire, des problèmes relationnels ou psychologiques, c'est que trop souvent nous oublions que le véritable lieu de notre engagement et de notre combat se situe dans notre propre cœur. Or, il me semble vraiment urgent de souligner que ce cœur, le cœur de chacun, est digne d'être pris entièrement au sérieux. Car notre cœur est digne d'être soigné avec attention et avec amour. Car, et cela me paraît être la volonté du Créateur, du moins tel que je comprends la révélation biblique. Notre cœur est le lieu où réside notre capacité de rejoindre Dieu, la capacité de désirer. Notre cœur est le lieu du désir. Un cœur qui ne désire absolument rien, qui n'aspire à rien, ne serait-ce pas un cœur mort? Dès lors, il ne s'agit pas de supprimer la capacité de désirer, mais d'éduquer cette capacité. L'être humain est appelé à grandir en prenant soigneusement en main ses désirs et, comme le suggère un psaume, de les exposer avec véracité et lucidité devant les yeux du Seigneur. Voilà le chemin qu'indique par exemple un saint Benoît, père des moines occidentaux, recommandant de dire au Seigneur « Ante te omne desiderium meum, devant toi sont tous mes désirs, devant toi sont tous mes désirs. » Il faut le souligner, si nous ne cernons pas nos désirs, éventuellement encore chaotiques et tous azimuts, afin de les discerner et de les redresser devant l'amour trinitaire, c'est, je vous le garantis, sûrement eux, ces désirs refoulés ou méprisés ou écrasés ou pas pris patiemment et aimablement dans nos deux mains, c'est eux qui nous cerneront et deviendront nos maîtres et les causes de tant de mal en nous et entre nous. Mais en suivant le conseil d'un moine tel que saint Benoît, que je viens de vous citer, nous apprenons à confier tout ce qui se meut dans les eaux profondes de notre cœur à l'unique qui, puissance créatrice, est toujours rempli du désir, désireux, et prêt de former, moyennant notre libre consentement, nos désirs, selon son cœur, par l'action de son esprit.